Bonjour. La démocratie est une question que l'on pose en général toujours trop tard, en particulier dans le monde libre. Si ici nous y sommes sensibles, c'est peut-être parce que cette maison est le résultat d'une des plus belles utopies démocratiques du siècle dernier. C'est aussi parce que, avec Pierre Rosanvallon et la République des idées, nous avons construit un partenariat fort depuis 2006, lorsque nous avions organisé avec Pierre la nouvelle critique sociale dans cette même maison. C'est pourquoi quand Pierre nous a appelés l'année dernière pour nous dire qu'il souhaitait revenir pour travailler les questions de la démocratie ici, évidemment, nous lui avons dit oui tout de suite. Nous lui avons d'autant plus facilement dit oui que nous avons retrouvé nos deux partenaires dans ces aventures de débat que sont la ville de Grenoble et le Conseil régional Rhône-Alpes, que je voudrais ici remercier ce matin. Mais je vais tout de suite passer la parole à Pierre Rosanvallon. Merci d'être là.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus ici. D'abord, dire un certain nombre de remerciements. D'abord, c'est une chance pour nous d'être dans cet formidable équipement qu'est la MC2. Et une fois de plus, je suis heureux d'être ici avec tous ceux qui ont préparé ce forum. Et je remercie Michel Aurier, Corinne Perron et toute l'équipe, les techniciens et tout le personnel qui va être mobilisé pour organiser cet espace pour nous pendant les 3 jours de ce forum. Et je suis vraiment heureux que ce soit une fois de plus à Grenoble, parce qu'après tout, Grenoble a une vraie tradition d'implication citoyenne et de curiosité intellectuelle, donc il est normal que la République des idées se sente un peu chez elle à Grenoble. Merci aussi à la région qui a aidé à rendre possible ce forum. Ce forum, nous allons le tenir pendant 3 jours dans toutes les salles de cette EMC2. Mais, si je puis dire, les discussions, les débats, les paroles, elles vont porter beaucoup plus loin. Comme vous avez pu le constater dans le hall, France Culture va être présent pendant toute la durée de ce forum, et notamment cette journée qui va être pleine de débats auxquels vous pouvez bien sûr assister. Et demain matin et dimanche matin, Stéphane Paoli animera les débats de France Inter, en direct également, de la MC2 ici même. Et indépendamment de cette présence sur les ondes, ce forum a aussi été préparé avec Le Monde, qui a publié le 29 avril un supplément. Il y a encore un certain nombre d'exemplaires qui sont disponibles dans le hall, un supplément de 8 pages, très très dense, ouvrant et préparant en quelque sorte la voie. Et hier, le Nouvel Observateur, lui aussi, a consacré tous ses pages débats, sont été nos deux principaux partenaires médiatiques. Mais bien sûr, je n'oublie pas les deux compagnons de route permanents que sont la Revue Esprit et Alternative Économique qui sont toujours avec nous dans nos initiatives. Et bien sûr, le dernier partenaire, lui, sur Internet, c'est lavidesidées.fr. La Vie des Idées qui est le forum qui rencontre un peu en permanence de la production et du débat qu'il y a autour des idées en France, mais pas simplement en France, dans le monde entier. Ce forum n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu tout un ensemble de mobilisations, indépendamment même de toutes les personnes de la MC2 que je viens de remercier. Il y a tous les étudiants et les profs de Sciences Po, ici à Grenoble, qui, autour d'Olivier Hill, se sont mobilisés pour préparer tout un ensemble de panneaux sur les expériences et la vie de la démocratie que vous trouverez dans le Grand Hall. Il y a évidemment aussi toute l'équipe de la mairie, autour de l'infatigable Marine Alix et de vraiment Thomas. Et Thomas Royer. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'équipe de la République des idées, qui ne s'est pas contentée de faire d'aider à Paris à la préparation matérielle, mais aussi à la préparation médiatique et surtout à la préparation intellectuelle. Et là, nous avons eu la chance d'avoir un tandem de choc, véritablement forgé dans l'inoxydable, Leïla Dakhli et Florent Guénard. Donc je les remercie tous, car c'est grâce à tous ceux que je viens de nommer que ce forum est possible. Pour introduire ce forum, quelques réflexions sur ce thème de réinventer la démocratie. Réinventer la démocratie, c'est un impératif à la fois intellectuel et politique.
Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence à bien des égards. Il y a urgence d'abord pour sortir du désenchantement et de la morosité. Ce sentiment mêlé d'impuissance politique et de piétinement. Il y a effectivement toujours une sorte de permanence, pourrait-on dire, de la crise de la représentation. Il y a le sentiment aussi, probablement, d'un divorce croissant entre des campagnes électorales qui restent vivantes, et l'exemple américain nous l'a remontré récemment, vivantes des moments d'identification, des moments de débat, des moments d'affrontement positif, et ensuite, je dirais, une vie politique ordinaire qui semble souvent à l'étiage. Donc, à bien des égards, nous pouvons avoir le sentiment de ce que j'appellerais une démocratie intermittente et une démocratie qui, plus encore qu'inachevée, est souvent partielle. Urgence également, car il faut sortir de la banalisation et de l'enfermement de notre vision de la démocratie dans une approche trop minimaliste. La démocratie, ça n'est pas simplement décider en commun à travers le bulletin de vote. L'idée même de la démocratie est liée au sens d'une appropriation de la vie, au sens de l'émancipation, au sens de la construction d'une communauté politique. Or, trop souvent, l'universalisation des principes de la démocratie semble s'être accompagnée du triomphe de sa définition la plus étroite, la démocratie électorale représentative. La philosophe politique américaine Judith Sklar disait « Ce qui menace la démocratie, c'est de vivre simplement comme une conséquence d'un certain libéralisme de la peur. » Hier, face au totalitarisme, de penser qu'une démocratie réduite était déjà un bienfait considérable, et aujourd'hui, face au terrorisme, certains se contentent de ce même minimaliste. Il y a aussi urgence pour sortir, pourrait-on dire, de la confusion et de l'abus des mots. Camille Desmoulins, un des grands journalistes, et en même temps, pourrait-on dire, philosophe politique de la Révolution française, disait qu'une des caractéristiques de la démocratie, c'est d'appeler les hommes et les choses par leur nom propre. Or, je crois aujourd'hui souvent que l'on appelle démocratie et que l'on se satisfait de définitions de la démocratie fort insuffisantes. On voit ainsi en Russie un Poutine définir la démocratie comme l'exercice souverain d'un pouvoir de type quasi-césarien. On voit au Venezuela un Chavez se contenter de la consécration par les urnes pour légitimer la réduction des droits audiovisuels de l'opinion. Et même en France, pourrait-on dire, la manière dont le président de la République définit une démocratie responsable comme s'exerçant à partir de l'épreuve et le test que représenterait une éventuelle réélection manifeste probablement une définition trop limitée. Mais il y a urgence aussi, tout simplement à cause du contexte de crise dans lequel nous vivons. Il y a urgence car la crise, pour être surmontée, elle obligera dans tous les domaines, dans le fonctionnement de la vie sociale, dans le fonctionnement de la vie économique, à plus de transparence, à plus de reddition de comptes, à plus de sens des responsabilités, à plus de participation des citoyens. La finance folle, d'une certaine façon, c'est justement la fin du face-à-face. C'est tout d'un coup la réalité qui s'abstractise, qui ne devient plus compréhensible, qui n'est plus appréhendée par le monde social. Le contexte que nous vivons aujourd'hui, il a d'un certain point de vue un précédent historique, un grand précédent historique. C'est celui de ce qu'on peut appeler la première crise de la mondialisation, disons dans les années 1890-1900. Cette première crise de la mondialisation, il est intéressant de revenir à elle, car elle a provoqué deux types de réactions. Un premier type de réaction, c'est face justement à la difficulté économique, c'était partout. En France, le tarif Méline de 1892, mais les réactions étaient les mêmes. En Allemagne, aux États-Unis et dans bien d'autres pays, la réponse protectionniste, le repli, et aussi, face aux difficultés, la réponse nationaliste. Face à une cohésion sociale mise en difficulté, redéfinir la nation, tout simplement, par une sorte d'agressivité vis-à-vis de l'extérieur. Il est certain que toute identité est toujours une identité négative et positive. On se définit par les côtés positifs de ce qui rassemble, mais aussi par le sentiment de la différence avec d'autres. Mais ce qu'on peut appeler l'explosion de nationalisme à la fin des années 1890, ou dans ces années-là, c'est très exactement un repli de la définition de la nation uniquement sur son aspect négatif. En même temps, cela a également été la période du rejet de l'immigration, de la xénophobie. Pensons que dans le sud de la France, à quelques centaines de kilomètres d'ici, il y a eu des violences qui se sont traduites par le massacre de quantités d'ouvriers italiens qui étaient accusés par Barrès, qui pour les élections de 1893 avait publié cet ouvrage qui avait pour titre « Contre les ouvriers étrangers » qui appelait au rejet de tous. Mais en même temps qu'il y a eu ces accents nationalistes, ces tentations, ces formes protectionnistes, ces formes xénophobes, il y a eu aussi, positivement, une tentative de redéfinir autrement la nation, une tentative de redéfinir la cohésion sociale. À l'intérieur même du socialisme, on voit en Allemagne un Otto Bauer, un Kautsky, en France, un Jaurès, dire le problème, c'est de redéfinir la nation comme la construction d'une communauté solidaire. Et effectivement, pendant ces années-là, que voit-on en même temps ? On voit pendant ces années, que ce soit avec autour de ceux que l'on a appelés les socialistes libéraux en Angleterre, à travers les socialistes universitaires en Allemagne, à travers les républicains solidaristes en France ou les socialistes jaurésiens, peu à peu tout un ensemble d'idées converger. Et converger vers quoi ? Eh bien converger vers la mise en place des premières formes d'État-providence, d'assurance contre les accidents du travail, la mise en place surtout d'un impôt redistributif sur les revenus, le développement aussi de formes de législation sociale. Pour sortir de la première crise de la mondialisation, on a inventé la négociation collective, on a reconnu partout les droits des syndicats. Donc il y a eu, que ce soit en termes de négociation sociale, en termes de redistribution économique, en termes même d'institutions politiques, puisque pendant cette période, il y a eu aussi, je dirais, une sorte de redéfinition de la démocratie. C'est le moment, partout, en Europe, où s'essayent de nouvelles formules de représentation proportionnelle. C'est aussi le moment où s'invente le référendum aux États-Unis, les procédures du recall, les procédures dits primaires. Donc on est sorti de la première crise de la mondialisation à travers une réinvention de la démocratie politique et, pourrait-on dire, une invention, la démocratie sociale et économique. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'expectative. Aujourd'hui, voilà la tâche historique qui est la nôtre. Et au fond, si ce forum prend sens, c'est bien pour être un petit pas dans cette direction, un petit pas auquel nous allons tous contribuer pendant ces trois journées de réflexion. Les trois domaines du forum, on a découpé le forum autour de trois grands thèmes. La démocratie et ses institutions, la démocratie comme forme de société et ce qu'on a appelé la démocratie monde. La démocratie comme régime, pourquoi la réinventer et dans quelle direction s'orienter ? L'impératif dans cette mesure est double. Il faut d'abord surmonter un certain nombre de déficits du système représentatif. Prendre en compte ce que Loïc Blondiot a appelé les oubliés de la représentation. Il y a donc, au niveau même des institutions électorales représentatives, tout un ensemble de procédures, tout un ensemble de techniques politiques qui demandent à être inventées. Et un certain nombre d'ateliers présenteront l'État en France et ailleurs dans le monde, l'État non seulement de la réflexion, mais des expérimentations allant dans ce domaine qui sont catalogués sous l'ombrelle un peu large, il est vrai, de démocratie participative. Mais il faut aussi penser et aller au-delà de la démocratie électorale. Pourquoi ? Parce que la démocratie électorale représentative, elle repose sur une fiction. La démocratie repose sur une fiction, c'est le fait que la majorité puisse représenter la totalité de la société. Et on confond ainsi deux choses dans la démocratie. Un principe de décision, parce que pour décider, il faut bien le principe majoritaire, sinon il n'y aurait jamais de décision. Mais en même temps que le principe de majorité s'impose avec évidence comme le principe nécessaire de décision dans un système démocratique, il faut qu'il y ait des principes de justification plus élevés. Des principes de justification plus élevés parce qu'on ne peut pas se contenter de faire comme si le plus grand nombre valait pour la totalité, comme si c'était une façon acceptable d'approcher une exigence plus forte. Première assimilation, celle de la majorité à la totalité de la société, qui généralement se double d'une seconde, l'identification d'un régime à ses conditions d'établissement au moment de l'élection. La partie valant pour le tout et le moment électoral valant pour la durée du mandat, voilà les deux présupposés sur lesquels a été assise la légitimité d'un régime démocratique et qu'aujourd'hui nous devons considérer comme nécessaire, absolument nécessaire, mais aussi insuffisante. Il faut reconnaître cette fiction comme une nécessité empirique, il faut la reconnaître pour ne pas rejeter la démocratie pour cause d'inachèvement. Car il y a aussi ce danger qui nous menace dans les démocraties contemporaines. C'est que face à l'inachèvement des démocraties, face à leur imperfection, face justement à cette limite que représente le principe minoritaire, et bien simplement de cultiver une réaction désabusée et parfois même haineuse par rapport à la démocratie. Comment aller plus loin, donc ? Eh bien, dans ce forum, nous allons explorer un certain nombre de voies qui consistent, pour le dire d'un mot, à penser à l'inverse de Tocqueville, pour lequel tout se simplifiait dans les démocraties, disait-il, tout se ramenant à une question d'arithmétique, celle du vote. Comment compliquer la démocratie ? Comment la compliquer ? La développer, la démultiplier. Compliquer la démocratie, c'est d'abord compliquer ses temporalités. Or, la plupart des institutions électorales représentatives ont été conçues et organisées autour du temps législatif et parlementaire, qui correspond à celui des élections. Et ça n'est que progressivement qu'on a pris en compte ce que j'appellerais le temps des principes. Ce temps des principes, c'est celui de la Constitution. Et on voit partout qu'il y a une demande de voir les constitutions jouer un rôle plus important pour que ce temps des principes puisse exister à côté du temps parlementaire. Mais il n'y a pas simplement ce temps des principes et ce temps parlementaire. Il y a aussi, pourrait-on dire, de plus en plus une double temporalité très écartelée. Il y a d'une certaine façon ce qu'on pourrait appeler le temps de l'espèce humaine, le temps de l'humanité. C'est celui de la gestion des biens publics à long terme, pour lesquels il n'y a pas de représentation possible. On ne peut pas représenter ceux qui naîtront dans un millénaire. Mais en même temps, il faut que les problèmes qui existeront à ce moment-là soient pris en compte par la société. Donc s'il n'y a pas forcément de représentation au sens de la délégation possible, il faut qu'une prise en compte, je dirais, du long terme dans les sociétés. Et il y aura tout un atelier qui s'occupera de cette question-là. Mais il y a également le temps du quotidien. Le temps du quotidien, c'est celui de l'action gouvernementale. Et les citoyens, aujourd'hui aussi, veulent de plus en plus que les gouvernants ne soient pas simplement responsables en termes électoraux, mais qu'ils soient en permanence dans une attitude d'interaction avec la société. D'une certaine façon, il y a une demande de ce que j'appellerais une démocratie des conduites à côté simplement d'une démocratie des décisions. Compliquer donc les temporalités, mais compliquer également les institutions de l'intérêt général. Déjà au XIXe siècle, au moment, je dirais, de la maturation des régimes démocratiques, à côté des institutions parlementaires, à côté des institutions électives, on a mis en place le service public, représentant d'une certaine façon, de manière plus ou moins autonome, une forme d'intérêt général. Mais maintenant, il y a une demande sociale partout pour multiplier des institutions et compliquer les institutions d'intérêt général. On ne peut pas penser qu'il y a simplement une façon de réaliser la démocratie. L'intérêt général, il est complexe, il est toujours problématique, il est toujours en discussion. Donc il faut qu'il soit poursuivi à travers des institutions d'impartialité, des institutions électorales, des institutions du service public, et puis aussi ce que j'appelle des institutions réflexives. Il faut également, c'est très important, compliquer les formes de l'intervention citoyenne. Que l'intervention citoyenne, elle ne soit pas simplement, justement, celle du bulletin de vote, mais que l'intervention citoyenne, elle soit aussi celle de la mobilisation, celle d'une société civile qui s'organise à travers des modes de représentation qui soient beaucoup plus diffus, diversifiée. La demande de représentation si forte dans notre société, c'est une demande de prise de parole. Ce n'est pas simplement une demande de délégation. Il faut que cette demande de prise de parole, elle trouve d'autres moyens et il y aura de nombreux ateliers qui seront consacrés à cette question-là. La démocratie, ça n'est pas simplement un régime. Je ne suis pas le premier à le dire, c'est un grand topos tocquevillien. C'était d'ailleurs même déjà une grande idée de la Révolution française. Mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a tendance à oublier cette définition sociétale de la démocratie. Car il y a bien trois fonctions et trois sens de la démocratie. On peut dire que la démocratie peut être conçue comme un vecteur d'émancipation des individus, un vecteur d'autonomisation. On pourrait parler en ce sens-là d'une démocratie des droits qui a pour objectif d'arracher les individus à leur pesanteur, aux places où ils sont assignés, de leur ouvrir en permanence l'avenir. Mais il y a une deuxième définition de la démocratie, c'est même la plus commune, c'est la démocratie comme forme de décision collective. La démocratie, c'est une définition procédurale de la démocratie. On pourrait parler, en ce sens, soit d'une démocratie de décision, soit d'une démocratie de régulation. Mais une troisième fonction de la démocratie, c'est d'instituer une communauté sociale et politique. Et derrière cet objectif de constituer une communauté sociale et politique, le maître mot, tel qu'il a été expérimenté d'une certaine façon pendant les révolutions françaises et américaines, c'est celui d'égalité, tout simplement. Il y a à la fois l'impératif d'indépendance, l'impératif d'autonomie, et en même temps, cet impératif d'égalité. Et on peut parler, en ce sens-là, d'une démocratie d'institution. Or, force est de constater que la démocratie d'émancipation, la démocratie des droits, pour l'historien, elle a progressé de façon extraordinaire. Regardons depuis les années 1970, ce qui était le progrès des droits concernant les femmes, les minorités et beaucoup d'autres groupes. Elles n'ont cessé de progresser et elles continuent d'une certaine façon de progresser. Mais la démocratie d'institution, que je pourrais appeler aussi une démocratie de redistribution, elle est véritablement en panne. Cette démocratie d'intégration, en effet, elle fait face à des mouvements de séparatisme social croissant, à des mouvements de ghettoisation, à une tendance à ce que certains aiment la démocratie, mais entre semblables. Qu'est-ce qu'une gated community ? Qu'est-ce que c'est que ces groupes de plus en plus homogènes ? Ce sont des gens qui aiment la démocratie entre ceux qui se ressemblent. Or, cette démocratie entre ceux qui se ressemblent, c'est même historiquement le contraire même de l'idée démocratie. L'idée démocratique, originairement, elle est née du constat qu'il fallait des procédures originales pour pouvoir faire vivre ensemble des gens qui étaient différents. Et c'est dans les ports de l'Attique que cela a commencé, lorsque l'on a constaté que venaient des immigrés, que venaient des voyageurs, que venaient des étrangers, que venaient des nouveaux échanges entre la ville et la campagne, et qu'il a fallu trouver ces institutions, un début, des embryons d'institutions originales pour régler cela. Une démocratie des copropriétaires ou une démocratie des actionnaires n'est pas une démocratie politique. On peut avoir des démocraties impolitiques. On peut avoir des systèmes de démocratie, mais qui sont limités à des petits groupes. C'est pour cela qu'il y a d'ailleurs une réflexion à faire sur le sens même de la démocratie locale, et il y aura aussi des ateliers qui seront consacrés à cela. Une démocratie de redistribution et d'intégration, c'est-à-dire une démocratie qui se définit par rapport à l'idée même de nation. Mais là, il y a un grand changement entre le XIXe siècle et notre XXIe siècle qui s'ouvre. Au XIXe siècle, la construction des démocraties politiques a été indissociable de la constitution de grands États-nations. L'Italie était divisée, elle s'est réunifiée pour devenir démocratique. L'Allemagne était divisée, elle s'est réunifiée. Les États-Unis étaient éparpillés, ils ont fait un grand État-nation. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, la tendance, elle est partout à l'inverse, à penser que la démocratie va avec le rétrécissement des espaces de solidarité. Et enfin, la démocratie, elle est aussi un territoire. Elle est une forme de société, c'est-à-dire qu'elle est indissociable de l'organisation d'un territoire. Après tout, qu'est-ce qu'une nation, si ce n'est le lien d'une population et d'un territoire. Mais nous sommes confrontés aujourd'hui à deux types de problèmes totalement inédits. D'abord, c'est la multiplication de ce qu'on pourrait appeler les populations déterritorialisées. Les déplacés, les réfugiés, les migrants sont de plus en plus nombreux dans le monde. Et eux aussi demandent d'être constitués en sujets de droit. Il faut donc trouver les moyens de les insérer dans des formes démocratiques, dans des formes d'existence juridique, de garantie des droits, de prise de parole, de représentation, parce que là, il n'est pas question de les faire exister comme État-nation, mais au moins de les faire exister comme sujet démocratique. Et là, il y a toute une recherche qui est en train de se faire et dont un certain nombre d'ateliers évoqueront les difficultés, les termes et les conditions. Il faut également aussi gérer des biens mondiaux. Et gérer ces biens mondiaux, une démocratie de gestion des biens mondiaux qui doit se mettre en place indépendamment même de la constitution des organisations internationales classiques. On peut dire que, à certains égards, nous voyons des formes de dénationalisation des démocraties et qu'on voit monter ou qu'on doit voir monter en puissance au niveau international, car au niveau international, il n'y aura jamais, pour l'instant, de redistribution. Après tout, on assigne comme objectif idéal à la redistribution internationale pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre les inégalités, c'est l'objectif affiché par les Nations Unies, une redistribution de 0,7% du produit mondial. Alors même que dans nos pays, eh bien on considère que les prélèvements obligatoires, impôts plus cotisations sociales, représentent de 45 à 50% de la richesse nationale pour produire, disons, les éléments d'une solidarité, d'une forme de cohérence, même si on la juge insuffisante. Il n'y aura pas de démocratie d'institution pensable au niveau international, mais il peut y avoir l'idée d'une démocratie de régulation, et elle se fait même véritablement sentir de façon urgente, et sous certains aspects aussi d'une démocratie d'émancipation. Et c'est à partir de la déclinaison, pourrait-on dire, ou de la décomposition de l'idée démocratique que l'on peut penser la notion de démocratie monde. La démocratie monde ne sera pas simplement la démocratie des États-nations en grand, elle sera la décomposition et la restructuration de ces différentes figures que je viens rapidement de nommer de la démocratie. Et il faut également tenir en compte qu'au niveau international, on voit à quel point la démocratie n'est pas simplement une affaire de procédure, mais une affaire de qualité des institutions. Personne ne peut demander aujourd'hui que le directeur de l'Organisation mondiale de la santé soit élu au suffrage universel. Mais en revanche, face à tout un ensemble de questions, on attend de ces institutions internationales qu'elles soient plus transparentes, qu'elles rendent des comptes, qu'elles soient plus responsables, qu'elles soient à l'écoute, qu'elles consultent des différentes organisations de la société civile. C'est donc leur structure, leur mode de fonctionnement, leur ouverture, et pas simplement leur origine, qui définit et qui caractérise leur possibilité d'être considérée comme plus démocratique ou d'être démocratisée. Et c'est d'ailleurs peut-être autour de ces thèmes-là aussi qu'il faut penser la question européenne, l'Europe étant très clairement une démocratie de régulation, étant un embryon de démocratie des droits, mais évidemment, hélas, pas encore du tout ce qu'aurait présupposé l'idéal fédéral, une démocratie de redistribution. Donc voilà toutes les questions qui vont être abordées pendant ce forum, mais pour mener cette entreprise gigantesque, bien sûr, c'est presque le travail d'une génération, et pas simplement d'une génération ici, mais c'est le travail d'une génération dans tous les pays, nous ne partons pas sans ressources. Nous ne partons pas sans ressources parce qu'il y a des analyses qui aident déjà à clarifier les enjeux. Il y a des expériences qui innovent et qui peuvent donner des idées. Et il y a des luttes et des mouvements sociaux qui déjà soulignent des problèmes, des urgences, aident à penser des impasses. Et au fond, pendant ces 3 jours, vont être rassemblés ici ceux qui écrivent les livres, qui renouvellent les analyses et ceux qui agissent et qui expérimentent sur le terrain. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que ce forum ne va pas se limiter à des débats, à des controverses dans ces salles, Mais l'ensemble de l'espace de la MC2 a été conçu de cette façon-là. Il y a un café des auteurs qui va être ouvert en permanence, où vous pourrez rencontrer justement ceux qui écrivent ces bouquins, et certains d'entre eux présenteront d'ailleurs de façon plus formelle leur livre. Il y a aussi une grande librairie, et face au café des auteurs, nous avons même prévu un grand cube noir que vous allez voir. C'est un théâtre vidéo, une installation de la compagnie Les Voisins du Dessus, qui, à partir de La démocratie en Amérique de Tocqueville, est un spectacle à la fois vivant et vidéo qui va se renouveler tous les 50 minutes. Donc vous êtes invités, très nombreux, à aller découvrir cette lecture originale de Tocqueville dans cette boîte noire qui est en face du café des auteurs. Je pourrais dire que pendant ces 3 jours, nous allons travailler ensemble à la fois sur le mode d'une sorte de grand laboratoire, même s'il y a spécifiquement un certain nombre de laboratoires démocratiques qui sont organisés pour faire des expérimentations de délibération, de prise de décision, de réduction des conflits. Nous sommes à la fois un grand laboratoire et un intellectuel collectif. Je pourrais dire, en paraphrasant une phrase célèbre de la Révolution française qui était placardée un jour sur un café, « Ici, on s'honore du titre de citoyen actif ». Eh bien, soyons ces citoyens actifs. Pendant ces 3 jours, bon forum à vous tous.